Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans nos habituelles lectures en liberté, nous sommes ensemble pour la suite du roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Catherine fut absente si longtemps que Joseph proposa de ne pas continuer d'attendre. Il conjectura finalement qu'il restait dehors pour éviter de subir son interminable benedicité. Ils étaient assez mauvais pour être capables de toutes les vilaines manières, affirmait-il. À leur intention, il ajouta ce soir-là une prière spéciale à son habituelle supplication d'un quart d'heure avant chaque repas, et il en aurait encore ajouté une autre à la fin des grâces si sa jeune maîtresse ne s'était précipitée sur lui en lui ordonnant en hâte de descendre sur la route en courant, de découvrir Heathcliff en quelque endroit qu'il rôdât et de le faire aussitôt rentrer. « J'ai besoin de lui parler. Il faut que je lui parle avant de monter, » dit-elle. « La barrière est ouverte. » Il est quelque part, trop loin pour entendre, car il n'a pas répondu, bien que j'ai crié de toutes mes forces du haut du parc à moutons. Joseph commença par faire des objections, mais elle prenait la chose trop à cœur pour supporter la contradiction. Il se décida à mettre son chapeau sur sa tête et à partir en bougonnant. Pendant ce temps, Catherine marchait de long en large. « Je me demande où il est !» s'écria-t-elle. « Je me demande où il peut être » Qu'ai-je dit, Nelly ? J'ai oublié. A-t-il été peiné de ma mauvaise humeur cet après-midi? Mon Dieu, dites-moi ce qui a pu le fâcher dans mes paroles. Je voudrais bien qu'il revînt, je le voudrais bien. Que voilà du bruit pour rien, répondis-je, quoique assez inquiète moi-même. Vous vous effrayez de bien peu de choses. Il n'y a vraiment pas lieu de s'alarmer beaucoup parce que Heathcliff s'est offert une promenade au clair de lune ou parce qu'il est couché dans le grenier à foin, de trop mauvaise humeur, pour nous parler. Je parierais qu'il est caché par là. Vous allez voir si je ne le déniche pas. Je sortis pour recommencer mes recherches. Je n'en rapportais que du désappointement. Et celles de Joseph eurent le même résultat. Ce coyeur-là, « il se fait pire tous les jours, » observa-t-il en rentrant. Il a laissé la barrière grande ouverte et le poney de Miss, il a foulé deux rangs de blé en le traversant pour s'en aller drette dans le pré. Bien sûr que le maître y fera une vie de tous les diables demain matin et il n'y aura point tort. Il est la patience même pour des créatures aussi négligentes et aussi odieuses. Il est la patience même, mais ça ne durera pas. Vous verrez, vous tous, faudra pas le mettre hors de lui. Ah, mais non! « Avez-vous trouvé Heathcliff ? Anne, que vous êtes ? » interrompit Catherine. « L'avez-vous cherché, comme je vous en ai donné l'ordre ?»« J'aimerais mieux chercher le cheval, » répliqua-t-il, « ce serait plus sensé. Mais je ne pourrions chercher ni le cheval ni l'homme par une nuit comme celle-ci, aussi noire comme une cheminée. Et Heathcliff, c'est pas un gars à venir à mon sifflet, peut-être ben qui serait moins dur d'oreille avec vous ?» C'était en effet une soirée très sombre pour l'été. Les nuages paraissaient présager l'orage et je déclarai que ce que nous avions de tous de mieux à faire était de rester tranquille. La pluie qui menaçait ne manquerait pas de le ramener à la maison sans que nous eussions à nous donner d'autres peines. Néanmoins, Catherine ne se laissa pas persuader de se calmer. Elle continua d'aller et venir de la barrière à la porte de la maison dans un état d'agitation qui ne lui permettait pas de repos. À la fin, elle adopta un poste permanent le long du mur, près de la route. Elle resta là, sans se soucier de mes remontrances, ni du tonnerre qui grondait, ni des grosses gouttes qui commençaient à s'aplatir autour d'elle. De temps à autre, elle appelait, puis elle écoutait, et ensuite se mettait à pleurer tant qu'elle pouvait. Ce fut une bonne crise de colère et de larmes, où elle surpassa Ayrton ou n'importe quel enfant. Vers minuit, alors que nous n'y étions pas encore couchés, l'orage vint s'abattre en pleine furie sur les hauts. L'ouragan et le tonnerre faisaient rage, et sous l'effet du vent ou de la foudre, un arbre se fendit en deux à l'angle de la maison. Une énorme branche fut précipitée en travers du toit et démolit une partie du corps de cheminée de l'est en envoyant une pluie de pierres et de suie dans le foyer de la cuisine. Nous crûmes que la foudre était tombée au milieu de nous. Joseph s'affaissa sur les genoux, priant le Seigneur de se souvenir des patriarches Noé et Lot et comme autrefois d'épargner les bons tout en frappant les impies. J'eus moi aussi un peu le sentiment que ce devait être un jugement à notre adresse. Le Jonas dans mon esprit était M. Hirschow. Je secouai le bouton de la porte de sa tanière pour m'assurer qu'il était encore vivant. Il répondit assez distinctement d'une manière qui provoqua chez mon compagnon un renouveau de vociférations encore plus bruyantes à l'effet de solliciter une distinction bien nette entre les bons chrétiens comme lui et les pécheurs comme son maître. Mais la tempête passa en 20 minutes, nous laissant tous indemnes. À l'exception de Cathy, qui fut complètement trempée par suite de son obstination à refuser de se mettre à l'abri et à rester dehors sans chapeau et sans châle pour recevoir autant d'eau qu'en purent absorber ses cheveux et ses vêtements. Elle rentra enfin et s'étendit sur le banc, mouillée comme elle l'était, le visage tourné vers le dossier et caché dans ses mains. « Voyons, Miss !» m'écriai-je en lui touchant l'épaule. « Vous n'avez pas juré d'attraper la mort, j'espère. Savez-vous l'heure qu'il est ? 00h30. Allons, venez vous coucher. Il est inutile d'attendre plus longtemps cet absurde garçon. Il sera allé à Jimmerston et il va y rester maintenant. Il a bien dû penser que nous n'aurions pas veillé pour lui si tard, ou du moins il a dû penser que seul M. Hindley aurait été encore debout et il a préféré éviter de se voir ouvrir la porte par le maître. » Non, non. « Il n'est point à Jimmerston, » dit Joseph. « Il serait point étonnant qu'il soit au fond d'une fondrière. Cette visitation céleste n'a pas été pour rien, et je vous conseillons de faire attention. Miss, ce sera votre tour, la prochaine fois. Le ciel soit loué pour toute chose. Tout conspire au bien de ceux qui sont élus et soustraits au contact de la racaille. Vous savez ce que l'Écriture est dit. » Il se mit à citer différents textes en nous renvoyant au chapitre et au verset où nous pourrions les trouver. Après avoir vainement supplié l'obstinée jeune fille de se lever et d'enlever ses vêtements mouillés, je l'ai laissée lui prêchant, elle grelottant, et je m'en allai au lit avec le petit Ayrton qui dormait aussi profondément que si tout le monde eût fait autant autour de lui. J'entendis Joseph lire un moment, puis je distinguai son pas lent sur l'échelle et je m'endormis. En descendant un peu plus tard que de coutume, je vis à la lueur des rayons du soleil qui filtraient à travers les fentes des volets, Miss Catherine, toujours assise près de la cheminée. La porte de la salle était entr'ouverte. La lumière pénétrait par les fenêtres qui n'avaient pas été fermées. Hindley venait d'en sortir et se tenait debout devant le foyer de la cuisine, hagard et somnolent. « Qu'as-tu, Cathy ? » disait-il. Au moment que j'entrais, tu as l'air aussi lugubre qu'un petit chien noyé. Pourquoi es-tu si abattu et si pâle, mon enfant ? J'ai été mouillé, répondit-elle avec hésitation, et j'ai eu froid, voilà tout. Oh, elle est insupportable, m'écriai-je en voyant que le maître était à peu près de son froid. Elle est restée plantée sous l'averse d'hier soir et elle a passé toute la nuit ici sans que j'aie pu la faire bouger. Monsieur Earnshaw nous regarda avec surprise. « Toute la nuit ? » répéta-t-il. « Qu'est-ce qui l'a empêché d'aller se coucher ? » ?»« Pas la crainte du tonnerre, certainement. Il y avait plusieurs heures qu'il avait cessé. » Aucun de nous deux n'avait envie de faire remarquer l'absence de Heathcliff tant qu'il serait possible de la dissimuler. Aussi répondis-je que je ne savais pas quelle idée elle avait eue de ne pas être allée se mettre au lit, et elle ne dit rien. La matinée était fraîche. J'ouvris la fenêtre et aussitôt la pièce se remplit des douces senteurs du jardin. Mais Catherine m'appela d'un ton grognon. « Hélène, fermez la fenêtre, je grelotte. » Et ses dents claquaient, tandis qu'elle se pelotonnait le plus près possible des tisons presque éteints. « Elle est malade ?» dit Hindley en lui prenant le poignet. « Je suppose que c'est la raison pourquoi elle n'a pas voulu aller se coucher. Le diable l'emporte ! Je ne veux pas être encore ennuyée par une nouvelle maladie ici. Pourquoi t'es-tu mise sous la pluie ?»« Elle courait après le gars comme d'ordinaire !» croassa Joseph, qui profita de notre hésitation pour faire intervenir sa mauvaise langue. « Si j'étions que de vous, maître, je leur y fermerions la porte au nez, à tous !» Tout doucettement et tout simplement. Vous ne pouvez point vous en aller une journée sans que Chad Linton y vienne glisser ici. Et Miss Nelly, en voilà une jeune fille. Elle se met aux aguets dans la cuisine. Sitôt que vous entrez par une porte, Linton y sort par l'autre. Et alors notre grande dame, elle va faire sa cour de son côté. C'est une jolie conduite, drôder dans les champs à minuit passée avec cet affreux démon, ce bohémien Discliff. Il croit que je suis aveugle, mais je ne le sens point, non, point du tout. « J'ai vu le jeune Linton arriver et partir, et je vous en vue !» Il s'adressait à moi. « Vous, proparien, sale sorcière, vous précipitez dans la salle à la même minute où que vous avez entendu le pas du cheval du maître claquer dessus la route. »« Silence, écouteur aux portes !» cria Catherine. « Pas de ces insolences devant moi !» Edgar Linton est venu hier par hasard, Hindley, et c'est moi qui lui ai dit de s'en aller parce que je savais que tu n'aurais pas aimé à le rencontrer dans l'état où tu étais. Tu mens, Cathy, sans aucun doute, répondit son frère. Tu es d'une bêtise sans nom. Mais peu importe Linton pour le moment. Dis-moi, n'étais-tu pas avec Heathcliff la nuit dernière ? Dis-moi la vérité maintenant. Tu n'as pas à craindre de lui nuire. Quoique je le déteste autant que jamais, il m'a rendu, il n'y a pas longtemps, un service tel que j'aurais scrupule de lui tordre le cou. Pour ne pas en être tenté, je vais l'expédier à son travail dès ce matin. Quand il sera parti, je vous conseille à tous de faire bien attention. Je n'en aurai plus d'humeur à votre disposition. Je n'ai pas vu Heathcliff la nuit dernière, répondit Catherine, en se mettant à pleurer amèrement. « Et si tu le mets à la porte, je m'en irai avec lui. Mais en auras-tu l'occasion ? Il est peut-être parti. » Là, elle ne put réprimer son chagrin qui éclata et le reste de ses paroles ne furent plus que sons inarticulés. Hindley versa sur elle un torrent d'injures méprisantes et lui dit d'aller sur le champ dans sa chambre, sans quoi il lui fournirait de bonnes raisons de pleurer. Je l'obligeai d'obéir. Et je n'oublierai jamais la scène qu'elle fit quand nous fûmes remontés. J'en fus épouvanté. Je crus qu'elle devenait folle, et je dis à Joseph de courir chercher le docteur. C'était un commencement de délire. Monsieur Kenneth, dès qu'il la vit, la déclara dangereusement malade. Elle avait une fièvre. Il la saigna et me prescrivit de ne lui donner que du gru au dos et de petit lait, et de faire attention qu'elle ne se jette pas par-dessus la rampe de l'escalier ou par la fenêtre. Puis il partit, car il avait pas mal à faire dans la paroisse où les habitations étaient en général distantes l'une de l'autre de 2 ou 3 milles. Bien que je ne puisse prétendre avoir été une garde très douce et que ni Joseph ni le maître ne valussent mieux, bien que notre patiente fût aussi fatigante et entêtée qu'une patiente peut l'être, elle triompha pourtant du mal. La vieille Madame Linton nous fit plusieurs visites naturellement, voulut tout redresser, nous mourigéna et nous donna à tous des ordres. Quand Catherine fut entrée en convalescence, elle insista pour l'emmener à Thrush Cross. Nous lui fûmes très reconnaissants de cette délivrance. Mais la pauvre dame eut sujet de regretter sa bonté. Elle et son mari prirent tous deux la fièvre et moururent à peu de jours d'intervalle.
Right, my girl.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Les Hauts de Hurlevent, de Émilie Brontë, suite. Catherine, notre jeune personne, nous revint plus insolente, plus irascible et plus hautaine que jamais. Nous n'avions plus entendu parler de Heathcliff depuis le soir de l'orage. Un jour, qu'elle m'avait par trop impatienté, j'eus le malheur de rejeter sur elle toute la responsabilité de sa disparition, ce qui était d'ailleurs la vérité, comme elle le savait fort bien. Depuis ce moment, pendant plusieurs mois, elle cessa tout rapport avec moi, autre que ceux qu'on a avec une simple domestique. Le même interdit frappa Joseph. Il fallait toujours qu'il donnât son avis et la sermonna, absolument comme si elle était une petite fille. Or, elle se regardait comme une femme, comme notre maîtresse, et elle pensait que sa récente maladie lui donnait le droit d'être traitée avec considération. Puis le docteur avait dit qu'elle ne supporterait pas la contrariété, on devait la laisser faire à sa guise. Et ce n'était rien de moins qu'un meurtre à ses yeux de prétendre lui résister ou la contredire. Elle se tenait à l'écart de M. Earnshaw et de ses compagnons, chapitrée par Kenneth et rendue prudente par les menaces d'accès qui accompagnaient souvent ses colères. Son frère lui accordait tout ce qu'il lui prenait fantaisie de demander et en général évitait d'exciter son caractère emporté. Il était plutôt trop indulgent à ses caprices. Non par affection mais par orgueil, Il désirait vivement de lui voir apporter de l'honneur à la famille par une alliance avec les Linton, et pourvu qu'elle le laissât tranquille, elle pouvait bien nous piétiner comme des esclaves, il n'en avait cure. Edgar Linton, comme tant d'autres l'ont été avant lui et le seront après lui, était aveuglé. Il se crut l'homme le plus heureux du monde, le jour qu'il la conduisit à la chapelle de Gimmerton, 3 ans après la mort de son père. Bien à contre-cœur, je me laissai persuader de quitter Hurlevent et de la suivre ici. Le petit Harton avait à peine 5 ans, et je venais de commencer à lui apprendre ses lettres. Notre séparation fut triste, mais les larmes de Catherine eurent plus d'empire que les nôtres. Quand je refusai de partir et qu'elle vit que ses prières ne m'ébranlaient pas, elle alla se lamenter auprès de son mari et de son frère. Le premier m'offrit des gages magnifiques, l'autre m'ordonna de faire mes paquets. Il n'avait plus besoin de femme dans la maison, dit-il, maintenant qu'il n'y avait plus de maîtresse. Quant à Harton, le pasteur se chargerait bientôt de lui. Aussi, je n'eus pas d'autre parti à prendre que de faire ce qu'on m'imposait. Je déclarai à mon maître qu'il ne se débarrasserait de tout ce qu'il y avait de convenable dans la maison que pour courir un peu plus vite à sa ruine. J'embrassai Harton et lui dis adieu. Et depuis lors, il a été pour moi un étranger. C'est une chose étrange à penser, mais je ne doute pas qu'il n'ait tout oublié d'Hélène Dean. Il n'ignore qu'il était pour elle et qu'elle était pour lui plus que le monde entier. À cet endroit de son récit, ma femme de charge est venue à jeter un coup d'œil sur la pendule de la cheminée et a été stupéfaite en voyant les aiguilles marquer 1h30. Elle n'a pas voulu entendre parler de rester une seconde de plus, à vrai dire. Je me sentais moi-même disposé à remettre la suite de l'histoire. Maintenant qu'elle a disparu pour reposer et que j'ai encore médité pendant 1 heure ou 2, je vais rassembler mon courage pour aller me coucher, en dépit d'une douloureuse paresse de la tête et des membres. Charmante introduction à la vie d'ermite, 4 semaines de torture, d'agitation, de maladie. Oh, ce vent glacial, ce ciel sinistre du nord, ces routes impraticables, ces médecins de campagne qui ne viennent jamais. Et cette absence de toute physionomie humaine. Et pire que tout cela, le terrible arrêt de Kenneth qui m'a ordonné à entendre que je ne devais pas compter de sortir avant le printemps. Monsieur Heathcliff vient de m'honorer de sa visite. Il y a environ 1 semaine, il m'a envoyé une couple de coqs de bruyère. Les derniers de la saison. Le coquin. Il n'est pas entièrement innocent de ma maladie et j'avais bien envie de le lui dire. Mais hélas, comment aurais-je pu offenser un homme qui a été assez charitable pour passer une bonne heure à mon chevet et pour me parler d'autre chose que de pilules, de potions, de vésicatoires et de sangsues ? Je jouis en ce moment d'un agréable répit. Je suis trop faible pour lire. Pourtant, il me semble que j'aurais plaisir à écouter quelque chose d'intéressant. Pourquoi ne pas demander à Madame Dean de finir son récit ? Je me souviens des principaux incidents jusqu'au point où elle en était arrivée. Oui, je me souviens que son héros s'était sauvé, qu'on n'avait plus entendu parler de lui depuis 3 ans, et que l'héroïne s'était mariée. Je vais sonner. Elle sera enchantée de me trouver en état de causer gaiement. Madame Dean est entrée.
Il y a encore 20 minutes, monsieur, avant l'heure de votre médecine, a-t-elle commencé. Au diable, la médecine, je voudrais avoir.
Ai-je répliqué.
Le docteur a dit que vous deviez cesser de prendre les poudres. Avec grand plaisir.
Mais ne m'interrompez pas, venez vous asseoir. Laissez en repos ce bataillon de drogues amères, tirez votre tricot de votre poche. Bien. Et maintenant, continuez-moi l'histoire de monsieur Heathcliff. Du point de vue où vous l'aviez laissé jusqu'aujourd'hui. A-t-il terminé son éducation sur le continent et en est-il revenu gentleman accompli? Ou a-t-il obtenu une place d'étudiant servant dans un collège? Ou s'est-il enfui en Amérique et couvert de gloire en versant le sang des enfants de son pays natal? Ou a-t-il fait fortune d'une manière plus expéditive sur les grands chemins de l'Angleterre? Il est possible qu'il ait fait un peu chacun de ses métiers, monsieur Lockwood. Mais je ne puis rien vous garantir. Je vous ai déjà dit que j'ignorais comment il avait ramassé son argent. Je ne connais pas davantage les moyens qu'il a employés pour tirer son esprit de la sauvage ignorance où il était plongé. Mais avec votre permission, je vais continuer à ma façon. Si vous pensez que cela doive vous distraire sans vous fatiguer. Vous sentez-vous mieux ce matin?
Beaucoup mieux.
Voilà une bonne nouvelle. Je suivis Miss Catherine à Thrush Cross et j'eus l'agréable surprise de constater que mes conjectures étaient erronées et qu'elles s'y conduisaient infiniment mieux que je n'aurais osé l'espérer. Elle semblait presque trop éprise de M. Linton. Elle témoignait même une grande affection pour Isabelle. Le frère et la sœur, du reste, étaient très attentifs à son bien-être. Ce n'était pas l'épine qui se penchait vers les chèvrefeuilles, mais les chèvrefeuilles qui embrassaient l'épine. Aucune concession mutuelle. L'une ne fléchissait jamais, et les autres cédaient toujours. Comment pourrait-on être hargneux et avoir mauvais caractère lorsqu'on ne rencontre ni opposition ni indifférence? J'observais que M. Edgar avait la crainte bien enracinée d'exciter l'humeur de sa femme. Il lui cachait cette crainte. Mais si jamais il m'entendait lui répondre sèchement ou s'il voyait tout autre domestique faire la grimace à quelque ordre trop impératif de sa part, il manifestait son déplaisir par un froncement de sourcils qu'on ne remarquait jamais quand il était seul en cause. Plus d'une fois, il me parla sévèrement au sujet de mon impertinence. Il m'affirma qu'un coup de couteau ne lui infligerait pas une douleur pire que celle qu'il ressentait quand il voyait sa femme contrariée. Pour ne pas faire de peine à un si bon maître, j'appris à modérer ma vivacité. Pendant l'espace d'une demi-année, la poudre resta aussi inoffensive que du sable, car aucune flamme n'approcha d'elle pour la faire détonner. Catherine avait de temps en temps des crises de mélancolie et de silence. Son mari les respectait avec une sympathie discrète, les attribuant à une altération de sa santé produite par sa grave maladie, car auparavant, elle n'avait jamais été sujette à de tels abattements. Le retour de la gaieté chez elle ramenait aussi chez lui la gaieté. Je crois pouvoir affirmer qu'il s'était vraiment en possession d'un bonheur tous les jours plus profond. Ce bonheur eut une fin. Voyez-vous, il faut bien qu'à la longue nous pensions un peu à nous-mêmes. L'égoïsme des natures tendres et généreuses est seulement plus justifié que celui des natures altières. Leur bonheur, c'est ça donc ? Quand les circonstances leur firent sentir à chacun que l'intérêt de l'un n'était pas l'objet principal des pensées de l'autre. Par une lourde soirée de septembre, je rentrais du jardin avec un lourd panier de pommes que je venais de cueillir. La nuit venait, la lune brillait par-dessus le mur élevé de la cour. Elle donnait naissance à des ombres vagues qui semblaient tapies dans les angles formés par les nombreuses saillies de la maison. Je posai mon fardeau sur les marches près de la porte de la cuisine pour m'accorder quelques instants de repos et respirer encore quelques bouffées de cet air tiède et embaumé. Je regardais la lune, le dos tourné à l'entrée, quand j'entendis derrière moi une voix qui disait « Nelly, est-ce vous ?» C'était une voix grave d'un accent étranger. Pourtant, il y avait dans la manière de prononcer mon nom un je ne sais quoi qui sonnait familièrement à mon oreille. Je me retournai non sans frayeur pour découvrir qui avait parlé, car les portes étaient fermées et je n'avais vu personne en approchant des marches. Quelque chose remua sous le porche. Je m'avançai et distinguai un homme de haute taille, avec des vêtements foncés, la figure et les cheveux bruns. Il était appuyé contre la paroi et tenait les doigts sur le loquet comme s'il se préparait à ouvrir lui-même. Qui cela peut-il être, pensais-je? Monsieur Earnshaw? Oh non, ce n'est pas du tout sa voix.
Voilà donc pour ce soir cette suite des Hauts de Hurlevent de Emily Brontë que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.